Le steamboat naviguait alors entre deux bordures d'arbres magnifiques, des tulipiers, des magnolias, des pins, des cyprès, des chênes verts, des yuccas et nombre d'autres d'une venue superbe dont les troncs disparaissaient sous l'inextricable fouillis des azalées et des serpentaires. Parfois, à l'ouvert des criques par lesquelles s'alimentent les plaines marécageuses des comtés de Saint-Jean et de Duval, une forte odeur de musc imprégnait l'atmosphère. Elle ne venait point de ces arbustes dont les émanations sont si pénétrantes sous ce climat, mais bien des alligators qui s'enfuyaient sous les hautes herbes au bruyant passage du Shannon. Puis, c'était des oiseaux de toutes sortes, des piques, des hérons, des jacamars, des butors, des pigeons à tête blanche, des orphées, des moqueurs, et cent autres, variés de formes et de plumages, tandis que l'oiseau-chat reproduisait tous les bruits du dehors avec sa voix de ventriloque. Même ce cri du coq à fraise, sonore comme la note cuivrée d'une trompette, dont le chant se fait entendre jusqu'à la distance de 4 à 5 milles. Au moment où Texar franchissait la dernière marche du capot pour prendre place sur le roufle, une femme allait descendre dans l'intérieur du salon. Elle recula dès qu'elle se vit en face de cet homme. C'était une métisse, au service de la famille Burbank. Son premier mouvement avait été celui d'une invincible répulsion, en se trouvant à l'improviste devant cet ennemi déclaré de son maître. Sans s'arrêter au mauvais regard que lui lança Texar, elle se rejeta de côté. Lui, haussant alors les épaules, se retourna vers ses compagnons. « Oui, c'est Zerma !» s'écria-t-il. « Une des esclaves de ce James Burbank, qui prétend n'être pas partisan de l'esclavage. » Zerma ne répondit rien. Lorsque l'entrée du roufle fut libre, elle descendit au grand salon du Shannon, sans paraître attacher la moindre importance à ce propos. Quant à Texar, il se dirigea vers l'avant du steamboat. Là, après avoir allumé un cigare, sans plus s'occuper de ses compagnons qui l'avaient suivi, il parut observer avec une certaine attention la rive gauche du St. John sur la lisière du comté de Putnam. Pendant ce temps, à l'arrière du Shannon, on causait aussi des choses de la guerre. Après le départ de Zerma, James Burbank était resté seul avec les deux amis qui l'avaient accompagné à Saint-Augustine. L'un était son beau-frère, M. Edward Carroll, l'autre un Floridien qui demeurait à Jacksonville, M. Walter Stannard. Eux aussi parlaient avec une certaine animation de la lutte sanglante, dont l'issue était une question de vie ou de mort pour les États-Unis. Mais, on le verra, James Burbank, pour en juger les résultats, l'appréciait autrement que Texas. « J'ai hâte, dit-il, d'être de retour à Camdlas Bay. Nous sommes partis depuis deux jours. Peut-être est-il arrivé quelques nouvelles de la guerre. Peut-être Dupont et Sherman… »